Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Double Voix, le podcast qui met à l'honneur ces Lyonnaises et Lyonnais qui changent le monde, qui changent notre monde. Je suis Stéphanie Borg en duo avec Julien Verchère pour ce podcast produit par Rhône Express et Tout Lyon, le média lyonnais qui vous parle d'écho et de plein d'autres sujets. Il n'est pas né entrepreneur, mais presque, tant son envie de créer remonte à loin dans son histoire. Fondateur et dirigeant de LDLC, un nom porte-étendard fait simplement de ses initiales, il construit depuis plus de 25 ans, entouré de sa famille, un groupe protéiforme dont l'ADN reste le commerce en ligne. Coté sur Euronext Growth qui compte près de 1000 salariés pour un chiffre d'affaires de 685 millions d'euros sur son dernier exercice. Entrepreneur, il est aussi investisseur, prêt à prendre des risques, quitte à dérouter ceux qui lisent son parcours en s'engageant dans des projets innovants comme une équipe de e-sport ou une association engagée pour la planète. Innovateur social, c'est lui qui a mis en débat la question de la semaine de 4 jours et qui milite pour un management bienveillant. Sans plus attendre, rejoignons notre invité, Laurent de la Clergerie, qui patiente, jean, polo, basket et grand sourire, sur le quai de Rhône Express à La Part-Dieu pour un voyage d'un peu moins de 30 minutes. Double Voix, épisode 1, c'est parti.
Bienvenue à bord de Rhône Express, à destination de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry.
Welcome aboard Rhône Express in direction of Lyon-Saint-Exupéry Airport.
Laurent de la Clergerie, bonjour. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté d'effectuer ce voyage avec nous.
Bonjour Julien.
Nous sommes à la Part-Dieu dans le Rhône Express, prêts à partir. Et vous, le point de départ de votre histoire d'entrepreneur, de votre engagement, vous le situeriez où et quand ?
Alors j'ai très longtemps cru que c'était en 5e, puisque j'avais fait une rédaction en 5e où je disais que je voulais être entrepreneur plus tard. Mais j'ai retrouvé cette rédaction et la première phrase de cette rédaction, c'est « Depuis que je suis en maternelle, je veux être entrepreneur ». Donc globalement, je dirais que j'ai toujours voulu être entrepreneur et que c'est dans mon ADN, je suis né avec.
Est-ce qu'il y a un moment particulièrement fondateur ou marquant dans cette inspiration ?
Alors, en fait, après, une fois qu'on a décidé dans sa tête qu'on serait un jour entrepreneur, on ne se dit pas « je vais commencer ma vie en étant entrepreneur ». Et en fait, j'ai créé LDLC au départ pour vendre un logiciel pour mon père et que je n'ai jamais vendu, je devais le vendre à Renault. Et on se retrouve avec une boîte vide et là, on n'a plus le choix, on doit créer quelque chose. Et je me suis retrouvé les mains dans le cambouis, si j'ose dire, à devoir créer une activité. Et j'avais plus le choix. Et j'ai commencé par développer du logiciel. Et LDLC, en fait, ça s'est créé sur la partie web parce qu'en fait, je voulais apprendre à coder sur Internet. Et voilà comment l'aventure a commencé.
Votre engagement prend des formes très, très différentes, qu'il s'agisse de management d'entreprise, de sport, d'engagement pour la planète aussi, avec votre frère, votre sœur également. Comment est-ce que vous expliquez cet engagement un peu multiforme, on va dire?
Je vis la vie, alors je vis pas la vie comme un entrepreneur qui cherche à tout prix à avoir une boîte qui va être rentable. Non, je vis la vie comme j'ai envie de la vivre tout simplement. Et la vie, bah, c'est vivre dans son système, vivre dans son écosystème, l'écosystème familial, l'écosystème de la planète, l'écosystème de tout ce qui nous entoure. On ne voit pas, mais je suis habillé simplement, j'ai une voiture simple, tout est simple. Si j'ai des péchés, c'est les voyages et la nourriture. Mais à part ça, je vis simplement et j'ai juste besoin de me sentir bien dans le monde dans lequel je vis. Et effectivement, à côté de ça, bah, j'ai créé une entreprise et je vais, à partir de cette entreprise et de ce qu'elle me permet de faire, c'est vrai que j'essaie de partir dans d'autres pistes. On n'a pas parlé, il y a une école aussi. Sur tous les endroits où je peux, où je pense pouvoir apporter quelque chose, mettre une pierre, pas tout faire parce que j'ai qu'une vie, mais en tout cas participer dans le maximum de choses où je peux avoir un rôle.
C'est votre façon quelque part d'essayer de changer le monde à votre échelle ?
C'est ça, c'est à mon échelle comme vous dites, sur mon LinkedIn j'ai mis que je suis qu'un colibri, c'est-à-dire celui qui met sa petite pierre, mais oui c'est quelque part la volonté d'essayer de bouger, de faire partie de ceux qui bougent. Je sais que tout seul on n'arrivera à rien, mais en tout cas si je peux inspirer, si je peux inspirer d'autres personnes à suivre ce mouvement, tous les mouvements dans lesquels je suis, je me dis que peut-être qu'à la fin ça marchera.
On peut peut-être s'attarder sur votre entreprise et sur le management mis en place au sein de LDLC. Est-ce que vous pourriez un peu nous en donner les grandes lignes de force, on va dire? Qu'est-ce qui vous a par exemple amené à promouvoir la semaine de 4 jours? Vous parliez également d'école LDLC.
Alors, en fait, LDLC, il y a eu trois phases. Il y a eu une première phase start-up en mode très cool. On travaillait chacun dans son coin, on se posait pas de questions. Et on a eu un gros accident en 2005 qui a été l'aube d'une deuxième phase. Parce qu'en fait, je me suis dit, on était trop cool. On a structuré la boîte, on est devenu très structuré. Et puis, il y a 5 ans, j'ai lu un livre qui était écrit par Alexandre Gérard, le patron qui voulait plus être chef, qui parlait d'entreprise libérée. Alors, LDLC n'est pas devenue une entreprise libérée, même si ça s'en rapproche aujourd'hui. Mais ce livre m'a fait réaliser que la boîte hyper structurée dans laquelle je vivais depuis 10 ans n'était pas la boîte qui me ressemble. Et à compter de ce jour-là, je suis repassé en mode je ne travaille pas pour de l'argent, je travaille pour le bien-être des gens qui sont travaillent avec moi, j'ai envie de m'éclater dans la boîte, donc je vais travailler sur la qualité de vie au travail. J'ai mis différentes mesures en place, on a supprimé les primes, on a augmenté les salaires. Aujourd'hui, le salaire minimum chez nous est à SMIC plus 25% pour que les gens vivent bien. Et puis effectivement, un jour, j'ai lu un article qui parlait de la semaine de 4 jours qui avait été testée par Microsoft au Japon en août 2019. Et ils avaient arrêté au bout d'un mois, mais ils s'étaient rendu compte qu'il y avait 40% de performance en plus. Et ça m'a juste planté une graine en me disant « Mais tiens, t'as pensé à plein de choses, mais t'as jamais pensé à mettre en place la semaine de 4 jours. Est-ce que ce serait faisable de mettre une avancée sociale pareille dans la société ?» Et en réfléchissant au sujet, je me suis dit, alors il y a eu une première étape qui était de se dire, ça fait travailler les gens 9 heures par jour, quasiment 8h45. Je me suis dit, bon, si je veux que les gens passent à 4 jours et que je leur annonce qu'ils travailleront 8h45, il y en a plein qui ne vont pas vouloir, donc je vais devoir réduire le temps de travail. Et donc je me suis dit, il faudra que ce sera 4 fois 8, 32. Pas dans l'optique d'aller à 32 heures, mais vraiment dans cette optique de ne pas avoir des journées trop longues. Et puis à partir de là, je me suis dit, bon, tu perds des heures, donc ça va coûter de l'argent à l'entreprise. Et j'ai pris le pari de me dire ça te coûtera 4-5% de la masse salariale en plus, parce qu'il faudra recruter pour compenser, mais c'est pas grave, la société peut se le permettre, donc on passera aux 4 jours, ça fera forcément du bien aux équipes, donc on avancera et on verra bien les effets positifs après. Ça paraît simple, enfin quand je le dis, parce que oui, ça m'a pris une semaine de décider de passer l'intégralité de la société à 4 jours. Quand je vois aujourd'hui comme c'est compliqué d'en inspirer d'autres, je me dis que je suis peut-être un petit peu fou. Mais voilà, c'est comme ça qu'est arrivée l'aventure et que je me suis lancé là-dedans.
Et avec un peu de recul, quel premier bilan vous en tirez? Quel retour vous avez de vos salariés?
Alors avec le recul, je me dis qu'il faut que tout le monde passe à la semaine de 4 jours. Parce qu'en fait, moi je pensais que ça allait me coûter de l'argent, ça m'a rien coûté. J'ai pas eu besoin de recruter parce qu'en fait, ça rend les gens tellement mieux dans leur vie qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus efficaces au travail. Et que globalement, en fait, du coup, la société s'y retrouve. Les gens travaillent autant. Je dirais même presque, voire mieux, et pourrait faire plus en moins de temps. Du coup, la société s'y retrouve et les gens ont une vie qui a été améliorée. Et je me suis rendu compte que, alors que quand j'ai mis cette mesure en place, c'était vraiment dans la notion, si je peux améliorer la qualité de vie au travail, ce sera top, ça fera que les gens se sentiront mieux chez nous. Non, c'est aller beaucoup plus loin que ça. J'ai pas amélioré la qualité de vie au travail, j'ai amélioré la qualité de vie tout court des gens, c'est-à-dire la vie perso et la vie pro. J'ai recréé un équilibre entre le nombre de jours où on a le temps de se reposer, d'avoir une vraie vie perso, parce qu'aujourd'hui, avec le droit à la connexion n'est pas venu pour rien, c'est justement parce que le travail a vraiment débordé sur la vie perso. J'ai recréé ce temps de vie perso qui fait qu'il y a beaucoup plus de... on retourne au travail beaucoup plus reposé, sans ces problèmes perso. Du coup, on se comporte mieux au travail, on est plus efficace, on a moins de problèmes, et on ramène pas ces problèmes dans la vie perso. Et en fait, c'est un cercle vertueux que j'ai créé qui fait qu'aujourd'hui, les gens se sentent super bien. Et quand je vois comment aujourd'hui se sentent les équipes dans la boîte, mais c'est un truc de dingue que j'ai envie de voir vivre ailleurs, parce que vraiment les gens se sentent super bien. Quand ils m'ont demandé, parce que je les vois tous les ans, je fais des réunions avec tous les salariés tous les ans, quand ils m'ont demandé, et Laurent, l'année prochaine, qu'est-ce que tu feras? Je leur ai dit rien. Et je leur ai dit rien.
Est-ce qu'ils y croient à ça?
Alors j'ai fait quelque chose, mais beaucoup plus léger comparé aux 4 jours. Mais je leur avais dit rien dans le sens de leur dire, si j'avance trop loin, si on avance socialement trop loin, aujourd'hui je tente d'expliquer à d'autres que ce que on vit, ce que vous vivez, c'est incroyable et que ça vaut vraiment le coup de réfléchir à la semaine de 4 jours, parce que c'est un vrai sujet finalement. Il n'y a pas de coût a priori, je ne sais pas si c'est à 100% valable pour toutes les entreprises, mais en tout cas pour nous c'était des vraies surprises. Et c'est surtout un bien-être dans les équipes qui est incroyable, il faut le voir, il faut leur parler pour le comprendre. Pas simplement les voir, ils ont le sourire la journée, mais il faut leur parler. J'ai changé leur vie. Et c'est pas juste, et c'est ce que je leur ai dit, ça n'est pas juste que vous soyez les seuls à vivre ça. Donc maintenant, si moi je vais plus loin dans les avancées sociales, déjà je suis un ovni avec cette semaine de 4 jours, je suis le poil à gratter là qui a foutu un peu le bordel. Mais si je vais plus loin, je vais juste être celui qui a fait des avancées sociales. Ok, ça marche chez lui, c'est génial, mais il n'y a que chez lui que ça marcherait, ça marchera nulle part ailleurs, c'est même pas la peine de le reproduire. Donc j'ai dit, on ne peut plus avancer. On doit d'abord amener un maximum de personnes à nous suivre, et le jour où on nous suivra, peut-être qu'on réavancera un petit peu plus, mais en attendant, on ne bouge pas. Alors je vous disais que j'avais mis quelque chose en plus cette année, ça n'a rien à voir, c'est un truc tout simple. Il y a beaucoup de télétravail aujourd'hui partout, et il y a des gens qui n'ont pas le droit de télétravailler. Enfin, pas le droit, mais un poste qui ne leur permet pas. Et je trouvais ça injuste. Et ce que j'ai rajouté cette année, contre-courant d'ailleurs de tout ce qu'on entend vis-à-vis du télétravail, où les gens cherchent à gratter en disant ça me coûte de l'électricité, ça coûte, etc. Aujourd'hui, les gens qui ne télétravaillent pas chez nous ont une prime, enfin une indemnité de poste non télétravaillable de 50 euros par mois.
D'accord, donc un contre-pied quelque part.
Un contre-pied, mais qui est aussi pour moi plus juste, parce qu'en fait, quelque part, le télétravail est aussi un vrai confort. C'est presque une vie un petit peu améliorée, parce que je dis que la semaine de 4 jours permet de prendre un rendez-vous chez le médecin, d'aller chez le coiffeur, mais le télétravail aussi amène parfois un peu de souplesse. Et ceux qui ne sont pas concernés ont un vrai désavantage, ne serait-ce qu'aujourd'hui avec l'augmentation des frais d'essence et autres. Il y a des coûts en plus, parce que bah, c'est quelque part écologique de travailler sur 4 jours, et puis c'est aussi des économies parce qu'on ne se déplace pas, il n'y a pas de nounou, il n'y a pas d'autre chose. Le télétravail, il y a quelques avantages de la même façon qui n'y sont pas, donc compenser le fait de ne pas pouvoir télétravailler, pour moi, c'était plus juste.
On pourrait aussi parler du management via la formation avec cette école LDLC. Quel est son ADN ?
Alors, l'école LDLC, quelque part, n'a rien à voir avec LDLC. En fait, je ne suis pas fan de l'école. Depuis tout le temps, j'ai jamais été un rebelle à l'école, mais je n'ai pas été l'élève qui suit. En gros, j'avais 10 de moyenne et ça m'allait très bien, même si on m'expliquait tous les jours que je pouvais avoir beaucoup plus. Parce qu'en fait, je n'étais pas fan du système scolaire et encore moins après le bac. Et en fait, j'ai voulu créer l'école à la fois qui me ressemble et qui apprend aux gens à travailler un peu comme je travaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la boîte, je suis un architecte. Je connais les métiers de tout le monde, je sais parler à l'informatique, je connais leur métier, je sais parler au marketing, je sais parler aux commerciaux, je sais parler à la compta, mais je suis un expert dans aucun de ces métiers. Un peu l'informatique par passion, mais à part ça, rien du tout. Et en fait, je voulais une école qui forme les équipes à devenir de super chefs de projet ou des futurs entrepreneurs, avec cette capacité à parler à tous les métiers, à toutes les personnes dans la boîte, et du coup, à savoir gérer leur boîte parce qu'ils savent parler à tout le monde sans être expert. Parce que finalement, quand on est architecte, je dis souvent, moi, j'invente l'histoire. Et puis, on revient voir, on me dit, Laurent, le mur que tu as voulu construire, qui est super beau, il tient pas debout. Donc, on va le faire un peu autrement, si tu permets. OK, on va modifier 2-3 trucs, on est d'accord. Mais voilà, c'est avoir cette position, mais qui permet de comprendre quand on parle. Parce que souvent, en fait, quand on gère une boîte, bah, on a affaire à des experts et on ne sait pas ce qu'ils font. On va parler aux devs, à la partie informatique, ils vont nous dire il faut 6 semaines. Oui, d'accord, on ne sait pas de quoi ils parlent. On va voir Alors, en général, on sait lire un bilan quand on est entrepreneur, ça c'est le chose. Mais on n'est pas forcément très commercial, on a certaines capacités et pas d'autres. Et moi, pour moi, il me semblait que c'était important de les avoir toutes. Et donc, on forme les étudiants à ça sur 3 ans. C'est une sorte de bachelor quelque part, mais avec cette idée très transverse de savoir un petit peu tout faire sans forcément être expert.
Bienvenue aux passagers, nous ayons rejoint à bord de Rhône Express.
Welcome to the passengers that join us aboard Rhône Express.
Pour vous, c'est vraiment important de connaître l'ensemble des métiers de votre entreprise. C'est ce qui a motivé votre passage à Patron Incognito sur M6, qui a beaucoup fait parler de lui. Une métamorphose physique à la clé.
Oui, j'étais le premier à couper les cheveux, enfin à enlever les cheveux. Non, Patron Incognito, ça, ils étaient venus me voir il y a 3 ans et j'avais dit non. Je voulais pas le faire. Ils sont revenus me voir il y a un peu plus d'un an maintenant et j'ai redit non. Mais entre-temps, j'avais mis en place les 4 jours 32 heures et la com m'a dit, Laurent, tu essaies d'expliquer ce que c'est que les 4 jours 32 heures, ce que ça amène aux gens. Bah là, tu vas faire rentrer une caméra dans la boîte et il est probable que les gens en parlent et que tu puisses montrer comme les gens se sentent bien dans la boîte. Donc, quelque part, si tu veux promouvoir ça, t'as pas le choix, faut le faire. Du coup, j'y suis allé. Alors, j'y allais pas aussi parce que j'avais pas envie de passer à la télé, hein, tout simplement. Et j'ai vécu une expérience incroyable. Parce qu'en fait, bah, passer une journée en mode incognito, c'est pas truqué, et les 3 ne m'ont pas reconnu, c'est génial. Parce qu'en fait, on passe une journée avec un salarié qui ne parle ni à un de ses collègues, ni au patron, ni à un directeur, et qui raconte sa boîte à quelqu'un qui est à l'extérieur. Donc en fait, il a juste envie de raconter. Et Dans l'émission, quand on la voit, vous voyez 20 minutes avec le premier, 10 avec le deuxième, 5 minutes avec le dernier. Mais en réalité, moi, j'ai passé 8 heures avec chacun d'entre eux. Et donc, j'ai vraiment vécu leur expérience. Ils m'ont raconté leur vie, ils m'ont raconté tout ce qu'ils vivaient. Et c'était génial d'entendre, de voir tout ce que je n'aurais jamais pu obtenir si j'avais été patron, même avec la plus grande honnêteté qu'ils auraient pu avoir. De toute façon, ils n'auraient pas pu être aussi honnêtes. J'ai vu, enfin, tout n'a pas pu être passé à la télé. Il y a déjà des choses sympas qui sont passées. Mais vraiment, l'expérience était incroyable. Et quand j'ai fini cette expérience, franchement, je me suis dit... je voulais pas le faire, mais si je l'avais pas fait, je l'aurais regretté. Parce que c'était une immersion qui est vraiment ultra positive. Les trois salariés que j'ai suivis étaient hyper contents aussi, parce que quelque part, ils se sont confiés à quelqu'un sans savoir que c'était le patron, mais ils ont vu aussi de leur côté une personne humaine, puisqu'à aucun moment, ils n'ont imaginé qu'ils parlaient au patron. Donc, ils étaient totalement naturels. Et donc, le discours a été naturel, et ils auraient jamais pu être... Ils n'auraient jamais pu imaginer cette relation avec moi si ça ne s'était pas passé dans ce mode-là. Et aujourd'hui, quand ils me voient, d'ailleurs, ils me parlent, c'est presque entre amis.
Vous avez gardé contact avec ces salariés en particulier, même s'ils ne travaillent pas forcément sur les mêmes sites ?
Pas gardé contact, mais par contre, quand je vais sur le site, forcément, je vais les voir. Et forcément, ils ne se comportent plus du tout comme les autres avec moi, parce qu'en fait, ils ont eu une relation très proche qu'aucun autre n'a eue. Et pour eux, c'est totalement naturel de venir me voir. Il n'y a plus aucune hésitation, alors qu'ils n'auraient jamais osé avant.
On peut aussi parler de votre engagement pour la planète. Vous avez plusieurs... vous avez des projets diversifiés. Vous êtes aussi dans le projet Time for the Planet.
J'ai participé fortement à Time for the Planet. On vient de remettre d'ailleurs. En fait, c'est arrivé d'un truc bête. Un jour, sur LinkedIn, j'ai posté un article qui revendiquait rien du tout, qui était juste un état d'âme sur l'état de la planète et le fait que rien bougeait. Mais c'était juste sans leçon, sans vouloir expliquer à qui que ce soit ce qu'il fallait faire. Et là, le système Time for the Planet a bien marché, c'est-à-dire qu'il y a plein de ce qu'ils appellent des gluons, ceux qui cherchent à recruter un petit peu, qui m'ont écrit en me disant « Ok, t'as fait ton super article, mais tu sais que Time for the Planet existe ?» Et j'en avais jamais entendu parler. Et donc, j'ai regardé leur projet et j'ai adoré. Parce que forcément, en tant qu'entrepreneur, quand on voit des entrepreneurs qui se regroupent pour faire une sorte de fonds qui va aller financer des startups en mode un peu open source, c'est-à-dire que si un projet marche, il doit être ouvert pour pouvoir le reproduire au maximum dans le monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent, on est vraiment là pour que ça se développe le plus vite possible et qu'on puisse agir vite en mettant un minimum d'argent au départ, d'ailleurs parce que le but n'est pas d'en mettre beaucoup, mais de lancer des projets sur lesquels personne ne met de l'argent. Comme ils expliquent, le but, c'est de trouver des projets qui ont été créés par des gars qui sont géniaux, qui ont des idées fantastiques, mais qui ne sont pas du tout des entrepreneurs dans l'âme. Donc ça se fait dans des labos, c'est pensé dans un coin et personne n'en fait jamais rien. Et de trouver en face des gens qui ont envie d'entreprendre mais qui n'ont pas d'idées et de leur dire on va vous mettre ensemble, on va mettre de l'argent pour pousser le projet et parce qu'on a l'entrepreneur et on a le gars qui est génial, on va en faire un projet ouvert qui ensuite pourra se développer au maximum possible partout. Et j'ai trouvé l'idée tellement géniale que j'ai foncé. J'ai d'abord foncé à titre perso, mais à titre perso je ne pouvais pas mettre grand chose, donc j'ai engagé la société à hauteur de 200 000 euros à l'époque, ce qui représentait pour le coup à l'époque 10% de ce qu'ils avaient levé, dans cette idée d'aller de les aider à booster et de se dire vous travaillez avec beaucoup de particuliers, vous recrutez beaucoup de particuliers qui mettent en moyenne 30-40 euros et il faut que les entreprises suivent, donc on va être un modèle et on va aller dans ce sens là et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a reparticipé là très récemment en montant notre participation de 200 000 euros à 1 million d'euros pour dire il faut vraiment que les entreprises bougent parce que oui, il y a une masse de particuliers qui travaillent un maximum pour vous, mais maintenant il faut qu'on aille plus vite, plus loin.
Et est-ce que cet engagement aussi, c'est pas une façon de contrebalancer un business finalement qui, vous travaillez beaucoup avec la Chine et c'est du grand export.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a une part un peu philosophique, une envie de contrebalancer tout ça?
C'est pas une envie de contrebalancer dans le sens contrebalancer. En fait, quelque part, le métier que je fais aujourd'hui, c'est pas un métier qui est bon pour la planète. Vendre des ordinateurs, vendre des téléphones portables, que les gens changent tous les 2 ans, voire moins, c'est pas ce qu'il y a de plus positif. Et quelque part, c'est frustrant. Donc oui, à un moment, on a envie de faire bouger les choses. Mais c'est pas parce que j'ai envie de faire bouger les choses que je me dis que ce que j'ai fait est mal, parce que c'est ce que j'ai fait qui me permet aujourd'hui d'investir dans tout ce que je fais. Par contre, clairement, aujourd'hui, quand je pense où est-ce que je peux réinvestir, je me dis, il faut que j'en investisse sur l'avenir, sur ce qui va aller plus loin.
À l'approche, en passant, on aperçoit le Groupama Stadium, l'antre du football lyonnais qui résonne aussi pour Laurent de la Clergerie, puisque dans quelques mois, une aréna se dressera et qui portera aussi le nom de LDLC Arena.
Exactement, juste à côté du Groupama Stadium, il va y avoir la LDLC Arena, qui est un projet qui tenait à cœur. Parce que, alors, il y a eu plusieurs étapes, il y a eu l'ASVEL. En fait, il y a quelques années, on s'est dit, on est gros à Lyon, on devient un acteur important, comment on peut rendre à la ville un petit peu le fait qu'elle nous ait accompagnés pendant tout ce temps. Pas forcément accompagnés en tant que ville, mais c'est sur le territoire qu'on a grandi, et c'est parce que sur le territoire on a grandi qu'on est devenu national. Et donc on a cherché un sport, le football en l'occurrence c'était un peu cher pour nous, et on est parti sur le basket. Et je n'avais jamais fait de basket, hein, et j'ai vu un match, j'ai vu cet esprit familial qui est dans les tribunes, et j'ai trouvé ça absolument génial, et je me suis dit c'est là qu'on doit être. Tony nous a rejoints, on a continué l'aventure, on a fait le naming de LDLC ASVEL, et puis il y a eu le projet Arena. Et là, entre temps, on avait aussi fait LDLC OL, où là pour le coup c'est l'OL qui est sponsor de la team LDLC. Et donc on avait tout ce trio qui se créait, il y a l'LLC Arena qui va regrouper des matchs ASVEL et qui va regrouper des matchs de e-sport. Donc on s'est dit c'est aussi logique, toujours dans cette notion de région, là pour le coup c'est plus gros, l'LLC Arena, d'accompagner ce projet et d'être nameur du projet pour rayonner encore plus sur la région et avancer avec. En plus, pour le coup, on parlait de côté écologiste, l'Arena est vraiment construite en mode économe, le plus écologiste possible. Le bâtiment, il y a toujours... en tout cas, ils ont travaillé dessus. Donc, il y avait un vrai sens derrière tout ça. Et on s'est engagé sur le projet, dans le projet, pour 8 ans.
Le sport, c'est devenu une passion. Ça l'était déjà. C'est vrai que vous êtes assez actif
Alors,
sur le sport et le e-sport, d'ailleurs.
Le sport, le e-sport, quand j'étais jeune, on fermait la boutique à 20h et on fermait les rideaux et on jouait jusqu'à 4h du matin, 5h. Des fois, on rouvrait, on ne s'était pas couché. Des jeux comme StarCraft et autres qui auraient pu... Mais voilà, aujourd'hui j'ai plus le temps. Donc je les regarde jouer, je les vois gagner. Bon là on a fini deuxième de l'European League sur League of Legends, mais on a été champion du monde sur d'autres, sur Counter-Strike. Et puis le sport, j'en fais, mais plus pour m'entretenir, parce que pareil, pas beaucoup le temps, en plus la semaine de 4 jours. On me demande d'ailleurs souvent si je suis aux 4 jours. Sur le travail, oui, mais je passe au moins un ou deux jours par semaine à parler la semaine de 4 jours. Donc ça m'a rattrapé quelque part, mais ça a un vrai sens pour moi. Donc oui, on s'implique dedans parce que ça a du sens, parce que c'est la vie un petit peu à côté du travail, parce que finalement il faut une vie, c'est global. Il y a une vie sociale, il y a une vie au travail, puis il y a une vie à soi, en famille, et il faut vraiment avoir l'équilibre entre les trois.
LDLC, c'est aussi une aventure familiale. Comment ça s'est déroulé cette histoire ?
Alors c'est amusant parce qu'on peut se poser la question si gérer une entreprise en famille c'est simple ou pas, et il y a les deux, c'est différent d'une entreprise standard. C'est très fort parce que dès qu'il y a un problème on est unis. D'ailleurs pendant très longtemps c'était très amusant, on partait jamais en vacances ensemble parce qu'on avait le sentiment qu'il y en avait toujours un qui était là en gardien du temple pendant que les autres partaient en vacances et qu'au moins on était tranquille. Après, sachant que quelque part c'est moi le président et que celui qui gère tout, en famille on n'est pas pareil dans un discours qu'avec un directeur divers. Les frères et sœurs y répondent. Et de la même façon, on a eu des fois des engueulades où on est monté à des niveaux très 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 hauts, où si ça s'était passé entre le patron et un de ses salariés, l'histoire était finie. Alors que là, bah, on peut s'engueuler, se jeter, ne plus parler, et puis le lendemain matin, on revient au boulot et tout est oublié. Et ça, c'est aussi une force pour l'entreprise, parce que du coup, on va se dire des choses qu'on ne peut pas se dire avec quelqu'un d'autre dans l'entreprise, de peur justement de monter trop haut et de casser quelque chose, alors que là, il n'y a pas de risque finalement de casser quoi que ce soit. Et du coup, c'est ce qui mène en fait cette gestion pérenne, quelque part plus surveillée, parce qu'on se surveille tous les trois. À l'époque d'ailleurs, ma sœur était celle qui gérait les chiffres, la compta, et qui disait « on peut pas ». Donc je faisais mon projet, elle me disait « tu n'as pas l'argent
». Quand on a un repas de famille, on parle de la boîte, on arrive à parler d'autres choses aussi.
Alors ça, c'est un des défauts, c'est qu'en fait, la boîte, une fois qu'on est en famille, elle est tout le temps là. Et même en repas de famille, ça, c'est les parents qui s'y mettent par-dessus. Et on parle tout le temps, quasiment tout le temps de la boîte.
Et peut-être qu'on peut arriver sur un plan un peu plus philosophique. Là, on a vu qu'il y a tout un tas de façons de changer le monde. Pour vous, qu'est-ce que c'est changer le monde, au fond ?
Changer le monde. Alors, je vais repartir sur ma semaine de 4 jours parce qu'en fait, le jour où j'ai commencé à parler du bien-être au travail, je suis venu vers les équipes en leur disant « À partir de maintenant, on va plus s'occuper du chiffre d'affaires de la boîte, on va plus avoir d'objectifs chiffrés, on va avoir des objectifs de bien-être. Et parce qu'on se sentira bien, on sera performant demain. » Et en fait, pourquoi je suis derrière la semaine de 4 jours? Parce que pour moi, elle va beaucoup plus loin que du bien-être en société, voire du bien-être perso. J'ai le sentiment que s'il y avait beaucoup plus de monde dans la semaine de 4 jours, le bien-être général que ça générait créerait un bien-être de société. Et que ce que j'ai dit aux équipes dans le sens, si on met le bien-être dans la boîte, la société se porterait mieux, je pourrais presque dire, si on installait le bien-être en France, la France se porterait mieux. Et donc ça va beaucoup plus loin parce que si cet apaisement que crée, ce rééquilibre que crée la semaine de 4 jours se généralisait un maximum, je ne sais pas si ça s'applique partout, donc je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait le mettre partout, mais en tout cas qu'un maximum de personnes y accédaient, je pense qu'on changerait le visage de la France et que quelque part, dans un deuxième temps, on deviendrait encore plus performant qu'on ne l'est, et puis avec un bien-être général qui éviterait de voir une France coupée en trois entre deux extrêmes et un centre.
Donc vous ne désespérez pas tout à fait de ce pays?
Non, il y a plein d'énergie, mais il y a des choses qu'on doit changer, oui, sans doute. Oui, je vais aller contre des pensées de certains syndicats patronaux. Je me suis rendu compte avec la semaine de 4 jours et les 32 heures que finalement, l'équation « on rajoute une heure, ça fait plus de productivité », elle ne marche pas. Puisque moi, j'ai enlevé 3 heures et j'ai beaucoup plus de productivité. Et je pense que j'avais d'ailleurs une des filiales qui tournait à 39 heures et qui est passée à 32. Et c'est pareil, on n'a pas recruté, donc ils font en 32 heures le travail qu'ils faisaient en 39. Et ils sont pas fatigués, bien au contraire, ils sont super heureux. Donc à un moment, quand on retrouve les bons équilibres, finalement, il y a plus de performance. Donc les équations simplement mathématiques d'efficacité, je pense qu'il faut intégrer à fond la notion humaine, fatigue, etc., qu'on a du mal à intégrer quand on est économiste ou trop calculateur.
Alors, on arrive dans quelques minutes au terme de ce voyage. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot de voyage, votre voyage rêvé? C'est quoi, Laurent de la Clergerie?
Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai deux faiblesses. Je dépense pas un sou sauf pour deux choses, les voyages et les restaurants. Et en fait, la planète est magnifique, c'est pour ça qu'il faut la sauver. On a un pays qui est magnifique, il y a plein de choses à voir, mais il y a plein de choses à voir dans le monde entier. Et la seule chose que je regrette des fois, c'est de pas avoir assez de temps pour aller partout et avoir le temps d'aller partout. J'entends qu'il faut prendre moins l'avion, consommer moins de CO2, mais il faut voir tellement de choses que c'est compliqué. Et ça, c'est mon équation irrésoluble. Il faut qu'on invente un avion qui pollue pas. Parce qu'il y a tellement, tellement de choses à découvrir. Le monde est génial, les gens dans le monde sont géniales, les cultures sont géniales. Bref, mon voyage, ce serait de faire le tour du monde et de balader sans arrêt, si j'en avais le temps. Mais il y a tellement d'autres choses à construire entre-temps que j'en ai pas le temps. Donc, quand je peux, je me l'offre. Et puis, le reste du temps, je profite et je voyage.
Alors, on aperçoit les ailes de la gare Saint-Exupéry, les terminaux de l'aéroport de Lyon. C'est bientôt la fin de ce moment précieux. Il me reste à vous remercier pour ces paroles pleines de sens.
Merci pour ce voyage. On voit aussi beaucoup de verdure, ça fait du bien.
Double Voix, c'est fini. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, le partager et à en parler autour de vous. Et rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage.